Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1. 14h-15h. La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour Pararon, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre pour ces hors-séries de l'été. Chaque semaine, nous revisitons la vie et l'œuvre d'un monstre sacré de la littérature. La semaine dernière, nous étions, souvenez-vous, chez l'ami Boris Vian. Aujourd'hui, cette semaine, on traverse l'Atlantique pour rencontrer l'un des écrivains les plus importants de l'histoire de la littérature. Et pourtant, en France, il reste un peu méconnu. Sauf si je vous cite l'un de ses romans emblématiques, Tom Sawyer.
Tom Sawyer.
Ça, c'est l'adaptation en dessin animé, c'est le générique et son auteur, donc c'est Mark Twain, l'auteur du roman, pas du générique bien sûr. Pour en parler, nous appellerons tout à l'heure Denis Podalydès, le comédien fan de Mark Twain, et j'ai invité un éditeur, mais pas n'importe lequel, l'éditeur de la maison d'édition Tristram. Ils sont basés à Auch et régulièrement, ils éditent des pépites, des trésors perdus ou oubliés, ou des inédits bien sûr. Entre autres faits d'armes, ils ont retraduit Tom Sawyer, justement, et Huckleberry Finn. Bonjour Jean-Hubert Galliot.
Bonjour.
Je voudrais faire une sorte de fausse ouverture avec vous, si vous voulez bien. J'ai passé l'extrait là, du dessin animé de Tom Sawyer parce que je me rends compte qu'en France, bizarrement, le nom Mark Twain n'est pas hyper connu. Il est connu, bien sûr, mais enfin, si je fais un sondage dans la rue, je ne suis pas sûr que tout le monde tilte. Après, on dit l'auteur de Tom Sawyer est là, ah d'accord. Et pourtant, c'est quand même l'un des pères de la littérature américaine, un des plus grands écrivains au niveau mondial. Comment est-ce qu'on explique ça, Jean-Hubert Galliot? On a trop de monstres sacrés en France, on n'a pas de place pour les classiques étrangers, c'est quoi l'histoire?
Oui, alors cela dit, ça n'est quand même pas une punition pour un écrivain que l'un de ses personnages, l'un de ses héros soit plus célèbre que lui-même. C'est peut-être même l'indice de la réussite maximale pour un romancier. C'est-à-dire de créer un ou plusieurs archétypes qui le dépassent totalement. Mais il est vrai que l'importance et la mesure et les raisons de l'importance réelle de Mark Twain ont eu énormément de mal à s'imposer dans la conscience littéraire française, probablement parce que à l'époque où il a connu une immense célébrité aux États-Unis puis dans le reste du monde, donc ça avait également atteint la France, mais en effet de manière assez limitée. C'était une époque donc à la jonction de la fin du 19e et du début du 20e siècle où on traduisait peu de littérature, peu d'auteurs étrangers en France, parce que la littérature nationale avait une énorme prééminence. Donc il y avait ce défaut, tout simplement, d'ouverture à ce qui s'était écrit ailleurs. Twain présentait peut-être des difficultés supplémentaires parce que il était perçu comme un romancier plutôt des campagnes et non pas comme un romancier de la grande ville avec le caractère universaliste que ça aurait pu avoir. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Ça posait de très 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 sérieux problèmes de traduction, et en l'absence de bonne traduction, un écrivain comme Mark Twain, même si c'est un écrivain extrêmement simple et extrêmement accessible, s'il n'est pas traduit de la bonne manière, il devient plus difficile à comprendre et surtout plus difficile à aimer.
Alors, il faut dire aussi que je ne vous ai pas invité par hasard. Vous êtes, je l'ai dit, cofondateur des éditions Tristram, qui publie régulièrement des chefs-d'œuvre, et vous avez publié aussi l'autobiographie de Mark Twain, qui est une somme. C'était il y a quoi, 5-6 ans. Mark Twain est mort en 1910 et il voulait que son autobiographie ne soit publiée qu'un siècle après sa mort. Vous nous racontez cette histoire ?
Oui, alors ça fait partie de ces histoires fascinantes de l'histoire de la littérature et de l'histoire de l'édition. Lorsque Mark Twain décide de s'engager dans ce projet d'écriture autobiographique, qui était un genre qu'il réprouvait, car il considérait que ça ne donnait jamais de bons résultats et que tout écrivain qui se lancer dans l'écriture de son autobiographie, aller droit dans le mur, parce que, selon lui, la seule raison d'être d'une autobiographie, c'est de tout dire sur tout le monde, sur tous les sujets, sans aucune espèce de limitation et d'autocensure, et que naturellement, lorsqu'on écrit son autobiographie, on est encore vivant au milieu des autres et au milieu de son temps, et la peur de déplaire, la peur de choquer, la peur de faire de la peine, fait que on dévoile le projet autobiographique. Et en même temps, Twain, qui était devenu un vieux monsieur, puisque son autobiographie, il l'a écrite au cours des 10 dernières années de sa vie, donc entre l'âge de 65 ans et de 75 ans. Il est mort en 1910, donc il écrit ça dans les 10 premières années du 20e siècle. Il savait bien que l'autobiographie était en même temps l'un des plus grands défis et l'une des aventures les plus exaltantes possibles pour un écrivain. Donc il a longtemps tourné autour de cette question, de ce problème. Il a fait plusieurs tentatives de récits autobiographiques auxquels il a à chaque fois renoncé très très rapidement parce que ça n'allait pas, toujours pour cette raison d'autocensure. Et puis il a trouvé une double solution absolument géniale. La première, radicale, c'était de dire « je vais écrire absolument ce que je vais écrire, mais je décréterai un embargo », c'est-à-dire que ça ne pourra pas être publié moins de 100 ans après ma mort.
Ce qui n'a pas tout à fait été le cas, d'ailleurs.
Ce qui n'a pas été le cas, mais pour...
Il y a des fuites.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des arrangements avec la postérité, parce que Mark Twain était devenu presque une marque commerciale, et donc tout écrit inédit de Twain qui pouvait être commercialisé, c'était bon pour les affaires. Mais enfin, ce qui a paru dans cet intervalle de moins de 100 ans après la mort de Twain, c'était quand même pas grand-chose, et parfois même des choses qui avaient déjà été publiées dans des journaux. Alors que l'autobiographie telle que nous avons entrepris de la traduire, et telle qu'elle est désormais intégralement parue aux États-Unis, c'est un énorme monument de 2000 pages, sans compter les notes. Ça serait un peu l'équivalent des Essais de Montaigne dans l'histoire américaine. Et donc Twain décide de cet embargo. Vous pourrez le publier, mais 100 ans après ma mort, si toutefois il y a encore quelqu'un d'ailleurs pour s'intéresser à quelque chose que je peux avoir écrit. Mais en tout cas, la garantie, c'est qu'à ce moment-là, toutes les personnes concernées seront mortes, la génération suivante aussi, et que ça sera purement de l'histoire. Donc ça, c'est la première décision qu'il prend. La deuxième, alors qu'elle est purement littéraire, c'est que plutôt que d'écrire son autobiographie, il décide de l'improviser face à une sténo, et une sténo qui n'était pas absolument experte, c'est-à-dire que ça l'obligeait à raconter, mais à raconter pas trop vite, et donc d'avoir le temps de méditer et de tourner ses phrases de la manière qui lui convenait. Et donc cet immense récit de plus de 2000 pages a donc été improvisé tous les matins au réveil, après avoir pris une tasse de café et un jus de fruits, après avoir jeté un coup d'œil sur la presse du jour. D'ailleurs, en général, Mark Twain prenait un événement dans l'actualité qu'il commentait, mais qui lui évoquait un souvenir, une personnalité qu'il avait connue. Et comme ça, pendant des années, tous les matins, par petites portions de 2 ou 3 pages, il a raconté à cette sténo qui prenait en note ce qu'il disait, une portion de son existence, mais qui à chaque fois reflétait beaucoup plus que l'élément concerné, et beaucoup plus que la vie de Twain, son temps, l'histoire de l'Amérique, l'histoire du monde, ses opinions et des idées très 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 vastes. Donc c'est un récit absolument extraordinaire où on passe des petits aux grands sujets, du récit d'une vie personnelle et parfois très très intime. Il y a eu de grands malheurs dans la vie de Twain, même s'il était un grand humoriste, donc il y a tout ça. Et puis en même temps, il était l'ami des présidents des États-Unis, donc c'est aussi...
Et bien justement, Jean-Hubert Galliot, dans un instant, restez avec nous, puisqu'on va ouvrir les premières pages de cette autobiographie.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Tom, alors qu'est-ce que t'en dis? J'ai presque fini.
Déjà?
Ouais, j'ai commencé très tôt ce matin. Tu vois, j'ai réussi à me débrouiller sans toi.
Monte un peu voir.
J'arrive. Regarde comme j'ai travaillé, ça te plaît? Oh, c'est bien, oui, c'est très bien. Tu as fait très vite. Ce qu'il y a, c'est que finalement, c'est très différent du plan que tu avais dessiné. Oh, ouais. Tu sais, sur le plan, j'avais fait une maison beaucoup trop belle pour moi. Je serais plus à l'aise comme ça. De toute façon, une maison sans toi, c'est pas une vraie maison et c'est pas joli du tout. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est moi qui y habiterai? Oui, je le sais bien, c'est ta maison et pas la mienne. Et c'est pas moi qui y habiterai, je suis d'accord. Mais j'ai une petite idée qui pourrait peut-être nous permettre de construire facilement une maison digne de toi. Regarde, en prenant ce qu'il nous faut ici, on va pouvoir te construire une vraie maison. Ben, je te répète que je trouve ma maison très bien. Pourquoi tu ne me laisses pas faire ce que je veux? Parce que je veux une belle maison pour toi. Alors viens m'aider au lieu de dire des bêtises.
De retour dans La Voix et Livre, consacré à Mark Twain aujourd'hui. C'était un extrait du dessin animé, l'adaptation des aventures de Tom Sawyer. C'est ma génération, ça. Moi, c'était le Club Dorothée, tout ça. Toujours avec nous, Jean-Hubert Galliot, l'éditeur de chez Tristram, spécialiste notamment de Mark Twain, qui a publié beaucoup de Mark Twain. Vous êtes toujours avec nous. Justement, on a parlé de la publication de son autobiographie tout à l'heure. On va commencer à ouvrir les premières pages. C'est qui Mark Twain plutôt, je devrais dire Samuel Clemence, c'est son vrai nom. C'est qui Samuel Clemence, enfant? Ça ressemble à quoi, sa vie au début?
Alors, oui, effectivement, Mark Twain, de son vrai nom Samuel Clemence, c'est un gamin d'une famille déjà un peu nombreuse, extrêmement provinciale, puisqu'on est dans le sud des États-Unis. C'est aussi une famille... ça n'est pas une famille de pionniers. Ils ne sont pas en première ligne de la conquête de l'Ouest, mais ils font partie...
Mais dans cet esprit-là, quoi.
Oui, en tout cas, ils font partie... La famille Clemens fait partie de ces familles qui avancent dans les nouveaux territoires après qu'ils aient été conquis et que des villes ou des embryons de villes aient été établis. Donc, ils font partie, disons, de la deuxième vague avec toute la dimension de précarité et malgré tout d'aventure que cela peut impliquer. C'est une enfance très très instable, avec de nombreux déménagements, avec un père qui mourra d'ailleurs assez tôt d'une maladie, qui avait fait des études de droit, mais qui en même temps, ayant peu d'emploi dans ce domaine, a toujours finalement recherché la fortune sans jamais l'obtenir, et en étant plutôt un spécialiste des investissements malheureux. Donc c'était une enfance, je pense, amusante, parfois dramatique, et en tout cas assez chaotique et bohémienne.
Il ressemble à Tom Sawyer ou pas, à cette époque-là?
Oui, probablement. En tout cas,
dans la sociologie, je veux dire, dans les aventures.
L'histoire de Tom Sawyer, comme celle de Huckleberry Finn, puisque ces deux livres, en réalité, n'en font qu'un, ça se situe dans un petit village, une petite ville, plutôt une bourgade du Missouri qui s'appelle Hannibal dans la fiction, mais qui est la représentation exacte de la bourgade dans laquelle le futur Mark Twain a réellement grandi. Donc tout ce matériau est réel, est vraiment inspiré de la véritable enfance de Mark Twain, et jusqu'à un certain point en tout cas, on pourrait, oui, sans doute faire une analogie entre le caractère extrêmement déluré, très débrouillard, farceur, espiègle, parfois manipulateur, du petit Tom Sawyer.
En tout cas, il n'écrit pas tout de suite. Hein. Si on avance un peu, il fait toute une série de voyages et de petits boulots un peu partout. Il expérimente beaucoup de choses.
Oui. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gamins de cette époque, Mark Twain a travaillé très tôt. Détail d'ailleurs remarquable, son premier métier a été celui de typographe, ou plus exactement d'apprenti typographe.
Imprimeur, quelque chose comme ça, quoi.
Oui, c'est-à-dire que typographe, c'est-à-dire que c'était la composition avec des caractères en plomb pour imprimer le journal local. Évidemment, à l'époque, c'était la seule source d'information. Donc tous les patelins avaient une gazette, une feuille d'information. Il y avait énormément de travail dans ce domaine-là. C'était un gros travail manuellement de composer les articles avec les caractères en plomb, et Mark Twain, vers l'âge de 15-16 ans, a commencé cet apprentissage de typographe, et à l'échelle de sa vie, quelqu'un qui aura d'ailleurs fait absolument tous les métiers possibles liés à la chose imprimée, ce qu'on appelle aujourd'hui la chaîne du livre. Il a été typographe, il a été journaliste, il a été évidemment écrivain, il a été critique, il a été éditeur, puisque c'est l'une des premières choses d'ailleurs qu'il raconte dans son autobiographie, parce que c'était, je pense, très important pour lui. Il a créé une maison d'édition pour éditer les mémoires du président Grant, le héros de la guerre de sécession, qui était l'un de ses meilleurs amis. Et voilà, et tout ce qui concerne le monde de l'écrit, le monde de l'imprimé, le monde de la presse, le monde du livre, Twain a touché à tout cela et s'est beaucoup intéressé. Il s'est intéressé aux questions du droit d'auteur lorsqu'il était devenu plus âgé et où sa notoriété lui permettait d'avoir une parole qui pouvait peser dans le débat public. Il a investi énormément dans l'invention d'une machine à composer justement les textes imprimés, qui permettait de mécaniser les opérations et d'aller beaucoup plus vite. Ça a d'ailleurs été un fiasco commercial retentissant qui l'a totalement ruiné. Donc oui, il
essaye beaucoup de choses en fait. Il travaille sur un bateau aussi.
Oui, alors ça c'est dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il part à l'aventure et donc en effet il a été comme ça moussaillon sur un bateau à aubes sur le Mississippi. On peut supposer sous les ordres d'un capitaine apparemment assez charismatique qui a beaucoup compté pour lui, pour l'anecdote. Mais enfin, s'agissant d'un écrivain comme lui, à vrai dire rien n'est anecdotique. C'est lors de cette vie sur le Mississippi qu'il a forgé son nom d'écrivain, Mark Twain, voilà. puisque Mark Twain, dans le langage des marins, ça signifierait deux brasses de profondeur, c'est-à-dire...
Mark Twain.
Exactement, voilà, c'est-à-dire la profondeur dont on a besoin pour que le bateau puisse passer à travers une profondeur d'eau suffisante, mais c'est à double sens, puisque Twain, ça évoque aussi l'idée des jumeaux, et Mark Twain, qui de manière très facétieuse a toujours beaucoup joué avec son propre personnage et sa propre légende, a beaucoup prétendu que lorsqu'il était né, il n'était que l'un de deux frères jumeaux, que malheureusement, à la naissance, l'un des deux frères jumeaux, en prenant un bain dans une baignoire, s'est noyé. Et il disait, on ne sait jamais lequel a survécu d'ailleurs, ce qui est une manière lui-même, comme écrivain, de s'inventer comme finalement quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la vie, qui est peut-être un mort qui écrit, et en tout cas voilà, avec une grande indécision sur l'identité qui était la sienne.
Et il va se mettre à l'écriture sur le tard, on en parle dans un instant.
La voix est libre. Nicolas Caro.
Tom ! Tu ne devais pas peindre la clôture ?
Je voulais, mais c'est Sid qui tenait absolument à le faire.
Tu n'as pas honte ? Tu laisses ton travail aux autres et tu prétends le faire toi-même, c'est ça ? Sache que nos mensonges finissent toujours par nous rattraper.
Pourquoi c'est toujours moi ?
Bon, rentre à la maison.
La Voix est libre, spécial Mark Twain aujourd'hui avec cet extrait du film et Tom Sawyer qui se fait engueuler par la tante Polly, toujours avec Jean-Hubert Galliot, le cofondateur des éditions Tristram, éditeur notamment d'un inédit de Mark Twain numéro 44, Le mystérieux étranger, l'autobiographie aussi de l'auteur et la retraduction de Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Et je voudrais qu'on s'intéresse quand même à ces deux romans. Jean-Hubert, vous êtes toujours avec nous. Il a une quarantaine d'années déjà quand il écrit Les aventures de Tom Sawyer, Mark Twain, en tout cas quand elles sont publiées.
Oui, il a très exactement 40 ans au moment de la parution de Tom Sawyer, qui est le premier de ses livres à rencontrer un considérable succès. Ça a été une notoriété, une célébrité instantanée. Et c'est 10 ans plus tard qu'il écrit le deuxième volet de cette histoire avec les aventures de Huckleberry Finn. Il a donc à ce moment-là 50 ans.
Et comment ça se passe Comment c'est reçu Les aventures de Tom Sawyer? Est-ce que c'est facile à publier? Est-ce qu'il rencontre des difficultés? Est-ce qu'il a des refus? Et une fois que c'est publié, est-ce que c'est un succès immédiat ou pas?
Oui, ça va très vite. Alors je ne pourrais pas dire quel degré d'instantanéité il y a pu y avoir en 1876, puisque c'est la date de la parution de Tom Sawyer. Je suppose que les choses allaient un petit peu moins vite qu'aujourd'hui, mais en tout cas, ça a tout de suite été lu, ça a tout de suite été réimprimé, et ça a tout de suite marqué les esprits, pour une raison qui était double. C'est Tom Sawyer et Huckleberry Finn, ce sont des histoires absolument merveilleuses, mais surtout c'était un événement d'écriture, peut-être davantage d'ailleurs encore dans Huckleberry Finn que dans Tom Sawyer, puisque pour la première fois un écrivain écrivait de manière non littéraire, de manière non académique. La grande invention de Mark Twain, et la raison pour laquelle probablement on le lit, on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il a pensé qu'il faudrait pouvoir raconter des histoires en faisant parler les personnages exactement comme ils parlent dans la vie réelle, c'est-à-dire que les enfants parlent comme des enfants, les gens sans éducation parlent comme des gens sans éducation, et en sachant que cette dimension extrêmement réaliste, extrêmement spontanée, extrêmement naturelle de raconter et de faire raconter les choses, non seulement ne serait pas du tout un appauvrissement par rapport à la langue littéraire académique, mais au contraire une beaucoup plus grande explosion d'expressivité, de verve et de plaisir, parce qu'évidemment la truculence elle est dans l'oralité. C'était quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui n'avait jamais été imaginé, et Twain a joué toute sa mise littéraire et romanesque sur cette idée que ces personnages allaient parler comme on parle dans la vie réelle. Et comme ça avait été un gamin très éveillé, qui avait précisément lui aussi vécu au bord du Mississippi, parmi les enfants, parmi les paysans, parmi les esclaves, il avait l'oreille d'un écrivain, et donc toutes ces manières de parler, ces dialectes, ces nuances, ce vocabulaire, ce rythme, cette façon d'attraper les objets avec les mots de tous les jours, cette façon de raconter les situations, il a réussi à le transformer en un époustouflant matériau littéraire. Si on voulait avoir une idée d'un équivalent français, il faudrait attendre bien longtemps en France, peut-être Raymond Queneau ou Céline, pour avoir quelque chose qui puisse s'approcher de cette révolution littéraire qu'ont été Tom Sawyer, mais surtout 10 ans plus tard Huckleberry Finn, parce qu'on associe toujours les deux livres. Tom Sawyer est un récit très simple, très divertissant et extrêmement beau. Mais le grand chef-d'œuvre littéraire, c'est Les Aventures de Huckleberry Finn, paru en 1885, et qui est aux États-Unis considéré comme le, ou en tout cas l'un des deux ou trois plus grands livres de l'histoire américaine, et le véritable livre fondateur d'une littérature spécifiquement américaine.
Ben justement, je voulais citer Hemingway d'abord parce que c'est toujours chic, mais surtout parce que ça remet bien Mark Twain à sa juste place. J'y vais. Toute la littérature moderne américaine découle d'un livre de Mark Twain intitulé Huckleberry Finn. C'est le meilleur livre que nous ayons eu. Tout ce qui s'écrit en Amérique vient de là. Il n'y avait rien avant. Il n'y a rien eu d'aussi bon depuis. Donc, c'est à ce point-là un des grands marqueurs de la littérature américaine ?
Oui, je pense même que c'est le grand marqueur si on essaye de comprendre ce qu'est une littérature justement spécifiquement américaine. C'est l'exemple d'Hemingway est intéressant parce qu'Hemingway lui-même a marqué une rupture dans la manière d'écrire des romans aux États-Unis. Évidemment, ça n'a plus rien à voir avec Henry James, avec les générations précédentes. C'est moins guindé, c'est moins écrit ou surécrit, c'est moins pesamment psychologique, et brusquement c'est l'action menée par le langage et par la confiance dans le langage, et cette recherche de spontanéité, de quelque chose de plus direct, de plus directement expressif, qu'on retrouve chez Hemingway, influencé par Mark Twain. On le retrouvera ensuite chez les écrivains de la Beat Generation, par exemple Kerouac et les autres, mais même encore plus tardivement un écrivain comme Bret Easton Ellis à ses débuts, avec notamment un livre comme Moins 2.0. À l'époque, le jeune Bret Easton Ellis, qui venait de terminer ses études, théorisait presque un retour à l'écriture de Hemingway.
C'est l'auteur de American Psycho, je resitue.
Voilà, et d'une certaine manière, c'était aussi une façon de continuer à dire que lorsqu'on s'égare dans des choses trop littéraires, trop compliquées, trop psychologiques, trop conventionnelles, voilà, une petite piqûre de Mark Twain, de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, ça remet les idées en place et ça redonne la bonne énergie pour raconter les histoires de la bonne manière. La littérature ne se réduit pas à ça, évidemment, mais s'agissant de Mark Twain, la grande invention et la postérité incroyable qui est la sienne procèdent de cette question de l'oralité.
C'est à cause de ce génie-là que c'était très compliqué à traduire en français. Et c'est pour ça que vous en êtes emparé, que vous avez retraduit Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Et quel était l'intérêt et qu'est-ce qu'il fallait changer? Racontez-nous un peu cette histoire.
Oui, alors c'est exactement pour cette raison-là. Ça m'a amusé d'ailleurs il y a quelques minutes en entendant l'extrait du film ou du dessin animé adapté de Tom Sawyer, car j'en ai évidemment beaucoup entendu parler. Je suis probablement d'une génération
c'est pas un chef-d'œuvre.
Un peu plus un peu antérieure à la vôtre, et en tout cas c'est quelque chose qui ne passait pas à la télévision lorsque moi j'étais enfant, et n'ayant plus la télé ensuite, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ces images. Pour moi, la découverte de Tom Sawyer, c'était dans la Bibliothèque Verte. On ne peut même pas parler d'une traduction ou d'une mauvaise traduction, puisque c'était des collections pour la jeunesse où les textes étaient entièrement réécrits. C'était plutôt une adaptation et un résumé. Comme l'histoire est géniale, c'était un enchantement. Et ça a été pour moi d'ailleurs le point d'entrée dans la littérature, parce que la lecture de Tom Sawyer, en ce qui me concerne, c'est la première fois où je me suis rendu compte que j'étais intéressé par ce que l'histoire racontait, mais également je voyais comment l'histoire était faite. Je voyais l'imagination, je voyais la construction, je voyais les tours de magicien, de l'écrivain derrière ces personnages, et c'est la première fois que je le voyais, et encore une fois dans une très mauvaise traduction et une édition extrêmement simplifiée. Donc là, c'est la puissance absolue de la littérature qui peut subir bien des avanies, bien des dégradations, et malgré tout conserver l'essentiel de sa force de frappe. Mais en même temps, lorsqu'on s'intéresse à la littérature américaine, on sait que Mark Twain, c'est la statue du commandeur, c'est le patron. Et cette importance de Twain pour le public anglo-saxon était absolument incompréhensible pour un lecteur français non anglophone, ne lisant pas l'anglais, d'une part parce qu'il le percevait comme un simple auteur pour la jeunesse, Tom Sawyer et Huckleberry Finn n'ayant été publiés que dans des éditions pour la jeunesse, et il ne voyait pas très bien ce que ça avait de si révolutionnaire littérairement, parce que effectivement, ça n'était pas traduit de la bonne manière. Je prends un seul exemple, mais qui, je pense, éclairera les choses. Huckleberry Finn, qui est le jeune camarade de Tom Sawyer, est le fils d'un ivrogne, il vit comme un vagabond, il dort dehors, il n'a jamais mis les pieds à l'école, il parle donc comme un enfant totalement dépourvu d'éducation, c'est-à-dire qu'il parle très très mal dans un langage qui est le sien, qui est presque un idiome avec sa syntaxe, son vocabulaire, son rythme, c'est merveilleux de saveur et d'expressivité, mais enfin, c'est pas comme ça qu'on parle.
Alors qu'avant, il parlait comme un jeune garçon de bonne famille.
Et voilà, et dans les traductions françaises, parce qu'il y avait des normes de traduction, dans les aventures de Huckleberry Finn, c'est Huck lui-même qui raconte son histoire. Il la raconte donc au passé, ça l'amène donc à employer le passé simple, et on se retrouve dans des récits d'anecdotes truculentes qui sont farcis d'imparfaits du subjonctif. Tout ceci dans la bouche d'un garçon de 13 ou 14 ans qui vit dans une cabane et qui n'a jamais mis les pieds à l'école. Il y avait presque un comique involontaire et en tout cas une disparition de tout ce qui faisait l'essence même de l'œuvre. Donc il était important d'y remédier.
Au passage, on pense toujours que Tom Sawyer, c'est un livre pour les enfants. C'est pas que pour les enfants, on est bien d'accord Jean-Hubert Galliot.
Ah bah, que ce soit Tom Sawyer ou Huckleberry Finn, ce sont des livres pour tout le monde, mais que les enfants peuvent lire et peuvent lire très jeunes, parce que précisément ce ne sont pas des livres littéraires au sens conventionnel et académique du terme. Donc je dirais que ce sont des livres que les enfants et les jeunes gens peuvent lire eux aussi, mais c'est évidemment beaucoup plus que ça. Et d'ailleurs, lorsque dans les années, je crois 2008 ou 2009, nous avons publié les nouvelles traductions de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, traductions dues à Bernard Höpfner, ça a été, d'une part, ça a été de grands succès publics, et ce sont des livres que nous ne cessons de rééditer, qui existent maintenant également au format de poche. Les médias en ont énormément parlé parce que tout le monde a pris conscience de cette chose que nous savions, c'est-à-dire que c'était un immense écrivain, un immense styliste, un moraliste de premier ordre, et que ça, on ne pouvait en prendre conscience en français que dans une traduction qui était vraiment au plus près de l'original.
C'est un roman superbe, en tout cas, à mettre dans toutes les mains. À tout de suite pour appeler l'un des fans de ce livre, justement, Denis Podalydès.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est livre.
La Voix et Livre continue, émission spéciale Mark Twain aujourd'hui, dernière partie, et donc il est l'heure d'appeler un invité spécial, pas forcément expert de l'auteur du jour, mais lecteur et admirateur. Bonjour Denis Podalydès.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Quand est-ce que vous avez rencontré Mark Twain, vous ?
Alors je ne me souviens plus, c'est tellement ancien. C'est bien. Je crois que j'étais très petit, c'était dans la chambre d'enfant, ça faisait partie des livres. Ma grand-mère était libraire et nous donnait comme ça régulièrement des livres, et j'ai dû tomber dessus avec mon frère. Et la première lecture était, je me rappelle, c'était une lecture illustrée, et tout de suite m'avait frappé le personnage de Huckleberry Finn, qui parfois m'attristait. C'est un enfant livré à lui-même, qui errait et qui n'allait pas à l'école. C'est dans ce livre que j'ai découvert l'expression « l'école buissonnière ». Je ne savais absolument pas ce que c'était, et moi qui étais un fanatique de l'école, ça m'attristait beaucoup que ces enfants n'aillent pas à l'école, ou plutôt s'y ennuient à tel point qu'ils doivent en partir.
Ah, c'est vrai, vous étiez heureux à l'école, vous ?
Ah oui, moi l'école était une sorte de paradis pour moi. C'était un lieu... J'ai d'ailleurs essayé de rester à l'école. Vous voyez, je suis encore à l'école, à la Comédie Française, c'est une sorte de grand lycée. J'ai aimé l'enseignement, ça m'apportait énormément, mes professeurs, mes instituteurs, ensuite les professeurs de lettres. Je n'étais pas le plus sage des élèves, mais j'étais sûrement un des plus passionnés.
Vous aviez conscience de l'importance de l'enseignement.
Du savoir. De l'enseignement, du savoir.
Mais vous n'étiez pas du tout Tom Sawyer, du coup, alors, oui.
Non, mais j'étais fasciné. De même, à l'école que j'adorais, j'étais attiré par les cancres. Ah. J'avais envie de sympathiser avec eux. D'ailleurs, Tom Sawyer, s'il le veut, d'ailleurs, il n'est pas cancre, il y a un autre qui est avec lui, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, qui est lui un vrai cancre. Tom Sawyer, c'est l'attirance de la liberté, l'attirance du Mississippi notamment, de cette île, la vie des pirates, c'est l'imaginaire en fait. Mais moi, l'imaginaire, je le trouvais curieusement dans la matière des livres d'école. Surtout, je dois dire, surtout en français. J'aimais passionnément le français. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je me destinais très naturellement à une carrière d'enseignant. C'était pour moi le métier le plus prestigieux qui soit.
C'est le phrasé qui vous plaît chez lui, c'est la sonorité ?
Ah, c'est les histoires, c'est le ton ironique et le ton, ce mélange d'ironie, de tendresse. Il y a tous les personnages, même cette grand-tante Polly, au début, qui pourrait n'être qu'une mégère autoritaire et sèche. Eh bien, en fait, c'est une femme qui est très, très aimante. Toutes les figures de ce petit village, de cette petite ville qui s'appelle Saint-Pétersbourg, sont des figures très, très attachantes, y compris même, d'ailleurs, l'Indien. Vous savez, qui meurt, c'est une scène absolument fantastique, Joe l'Indien, qui meurt enfermé dans la grotte. Enfin, là même où Joe Tom et Becky ont failli eux-mêmes mourir, lui va y passer. Mais ce personnage-là finit, qui est terrifiant la première fois où on le découvre dans les cimetières, devient ensuite une figure absolument pathétique. Donc c'est cette humanité profonde qu'il y a dans cette petite ville, la précision des scènes, l'humour constant dès le début, notamment de Tom. Et puis sa faculté de rêver, son goût pour les pirates, son goût pour l'ailleurs. Tout ça m'a donné. Oui, je pense que ça donne aussi un sentiment de la liberté.
Vous m'aviez dit un jour, Denis Podalydès, vous m'aviez dit un jour, il y a 4 ou 5 ans, pour une chronique que je faisais sur les classiques pour Europe 1, oui. que Twain avait ce talent de mettre le lecteur à hauteur d'enfant.
Oui, oui, ça c'est vrai. Mais je l'ai éprouvé moi-même en lisant à mon fils. On a lu intégralement le roman de soir en soir. Ça a pris donc... Un temps assez long, puisque c'était à peu près un chapitre par soir. Eh bien, mon fils a totalement épousé les contours de l'histoire, s'est identifié à Tom. Je pense que Tom, mon fils, a 6 ans et demi, et il a toute sa sixième année à peu près. On a lu Tom Sawyer au cours de sa sixième année. Eh bien, il est parfaitement identifié.
Jean-Hubert Galliot, je rappelle, vous avez retraduit Tom Sawyer. Comment on explique ça, que le fils de Denis Podalydès arrive à s'identifier, et puis moi aussi, et puis des adultes, et puis de ceux qui le découvrent un peu plus tard, etc. Comment on arrive à s'identifier, vous allez me dire c'est inexplicable, mais à ce gamin quand même, au fin fond des États-Unis, avec des paysages qui n'ont rien à voir avec le nôtre, avec des aventures complètement improbables, comment il touche à l'universel? De quelle manière, Mark Twain?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous touche tous les uns après les autres et de génération en génération. Je le racontais pour moi-même. Denis Podalydès vient de le raconter lorsque lui-même a découvert Tom Sawyer et aujourd'hui son fils, la génération suivante. Donc effectivement, ça marche toujours, tout le temps, à tous les coups. Et à mon avis, c'est parce que il y a quelque chose de l'enfance, du jeu, de l'imagination de l'enfant. Du côté ingénieux, manipulateur, on vit des histoires, mais on se raconte les histoires qu'on va vivre et peut-être qu'on les vit pour pouvoir les raconter, etc. Il y a cette essence de quelque chose de juvénile qui transcende l'époque à laquelle c'était écrit, le décor dans lequel c'est situé. Alors évidemment, la réalité des lieux de l'époque a beaucoup d'importance dans Tom Sawyer, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond qui est ressenti en premier par les jeunes lecteurs, ou d'ailleurs les jeunes lectrices, hein, parce que depuis que nous faisons circuler ces nouvelles éditions de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, alors qu'on pensait que ça concernerait surtout des gamins, eh bien leur sœur ou leur cousine également lisent ces livres et y prennent beaucoup de plaisir et s'identifient de la même manière. Donc ça n'est pas uniquement, de même que ça ne concerne pas la jeunesse, ça ne concerne pas que les garçons.
Denis Podalydès, vous prêtez souvent votre voix pour des livres audio. J'ai cherché mais un peu trop rapidement, mais je n'ai pas trouvé Tom Sawyer. Vous l'avez déjà fait? Vous faites des lectures parfois publiques?
Alors, je l'ai fait, mais j'ai l'impression, je me demande si je ne l'ai pas fait dans la traduction. De Monsieur Gaillot, une retraduction. Je l'ai fait à Lyon.
Exactement, c'était aux subsistances ou à la Villa Gilet.
Exactement, voilà.
C'était
voilà.
Un été, peut-être deux ans, peut-être en 2010, et vous aviez effectivement lu de très larges extraits de cette nouvelle traduction.
Mais on peut pas se procurer le livre audio sur les plateformes, on est d'accord?
Ah non, parce que ça n'avait pas été enregistré, ou peut-être ça a été enregistré, mais ensuite pas commercialisé en tout cas. Mais j'ai un excellent souvenir de cette lecture, et c'est précisément cette lecture qui m'avait fait replonger dans Mark Twain.
Merci beaucoup, Denis Podalydès.
Je vous en prie.
Et effectivement, ça vaut le coup de se procurer quelques-uns des livres audio que vous avez enregistrés. Ça permet en plus de passer quelques heures avec vous, ça vaut le coup. Merci beaucoup, Jean-Hubert Galliot.
Merci.
On peut et on doit lire vos traductions de Tom Sawyer et Huckleberry Finn, ça c'est entendu, mais vous avez aussi un chef-d'œuvre à venir pour la rentrée, La Tannerie de Célia Lévy, vous nous en dites un mot ?
Écoutez, chef-d'œuvre, l'avenir le dira. En tout cas, là, on change d'univers. Célia Lévy est une jeune romancière française. C'est le quatrième livre, le quatrième roman d'elle que nous publions. C'est effectivement un livre qui nous a fait un effet considérable. En quelques mots, c'est le roman de l'époque. C'est le roman de la génération de ceux qui aujourd'hui ont entre 20 et 30 ans, qui sont la proie de toutes les impostures, des discours, des références de la vie parisienne, de ce que Célia Lévy appelle la vie en terrasse. En un mot, ça décrit la vie quotidienne au sein d'une très grosse institution culturelle parisienne dans laquelle tout le monde est exploité, surexploité, laminé, détruit, en dépit des discours extrêmement bienveillants, extrêmement progressifs qui font la marque de fabrique de ce genre de lieu. C'est un roman, c'est comme du Balzac ou du Zola, mais avec ce sujet extrêmement contemporain. C'est effectivement un très grand livre dont je pense on entendra beaucoup parler à la rentrée littéraire.
On lira ça. Merci beaucoup Jean-Hubert Galliot, éditeur donc chez Tristram. Dans un instant, encore des livres, on retrouve les libraires de l'émission. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
Il est l'heure de flâner dans les rayons des librairies à l'heure d'été, donc sujet libre aujourd'hui, comme tout l'été. Bonjour Thibaut Raden de la librairie L'Écriture à Vaucresson et Christophe Daniel, librairie La 25e Heure à Paris. Salut à tous les deux.
Bonjour Nicolas.
On commence avec vous Thibaut. Ouais, une BD aujourd'hui.
Oui, exactement, de Bastien Vivès, Une sœur. C'est comme ça que j'ai découvert Bastien Vivès et quelle découverte. Une sœur, c'est... Alors, ça se prête tout à fait à l'été parce qu'on parle de vacances d'été justement et d'amour d'été.
Avec.
Exactement, et surtout quand on a 13 ans. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui part en vacances avec ses parents et son petit frère. Et pour diverses raisons, une amie de la mère vient les voir en vacances avec sa fille qui a 16 ans. Et le petit garçon qui a 13 ans, on supposait tout de suite que c'était un petit Bastien Vivès, voit cette jeune fille arriver qui a 16 ans, qui commence à avoir des formes de femme et tout ça, et qui lui parle, qui s'intéresse à lui alors qu'il est beaucoup plus jeune. Au début, il est très en retrait, et puis plus ça va, plus il se laisse prendre par ce truc, par le sentiment qu'il éprouve vis-à-vis d'elle, qui n'est pas de l'amour, mais qui est la naissance, en fait, du désir, des émotions, oui, peut-être un petit peu l'amour si on veut, mais voilà. Et Bastien Vivès, il a réussi, avec son trait qui est toujours le plus minimaliste possible, mais direct, qui est génial, à capter cette essence. Moi, je me suis retrouvé à 13 ans en camping avec mes parents où je vois la fille d'à côté et je me dis, qu'est-ce qu'elle est belle.
Ah, ça sent l'histoire vécue.
Et bien sûr qu'il ne l'a pas vécu.
On est tous là, Thibaut.
Je le souhaite à tout le monde. Et voilà, c'est ça. Il a vraiment réussi à capter ce moment-là. C'est très beau. C'est vraiment une émotion qui est très pure. Il fait revivre des trucs et ça fait beaucoup de bien dans la BD de ressentir ce genre d'émotion. Ça fait beaucoup de bien parce que ça se lit vite et ça se relit, ça se redécouvre. En plus, le garçon de 13 ans passe son temps à dessiner, à la dessiner, moi qui dessine en plus de ça. Enfin, j'étais vraiment ce garçon de 13 ans. C'est superbe. C'est une superbe BD que je conseillerais à tout le monde, aux enfants de 13 ans comme aux adultes. C'est un vrai plaisir.
Une sœur, c'est chez Casterman, Bastien Vivès. Merci Thibaut. Christophe Daniel, un japonais.
Alors, une japonaise qui s'appelle Ryoko Sekiguchi, et pour un petit livre très délicat, très fin, qui s'appelle Nagori, avec comme sous-titre La nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. C'est un court texte publié dans la collection Folio.
Rien que le sous-titre est un poème.
Oui. Et le livre est un poème. C'est pas un roman, hein. C'est un récit qui va nous parler des saisons, de la nature, du temps qui passe, de la vie et de la mort, parce que la question c'est reverrai-je cette saison l'an prochain. Les Japonais en majorité ont un rapport très particulier avec les saisons. Pour certains Japonais, il y en a 24. Imaginez si Vivaldi avait su. Et elle nous parle de donc le Nagori, en fait, c'est un état. Par exemple, d'un aliment. Pour les Japonais, il y a trois états. Il y a le hachiri, qui est quand le fruit, l'aliment est vraiment primeur. Ensuite, il y a le sakari. Là, il atteint sa maturité, c'est la pleine saison. Et ce fameux nagori dont il est question dans son récit.
Un peu trop mûr.
C'est un petit peu la fin du fruit, l'arrière-saison, et déjà la nostalgie de cette saison qui s'en va. C'est d'une poésie très forte. Et puis, ça vous permet de regarder, en plus, l'été, on a plus de temps peut-être pour s'occuper de la nature et l'admirer. Et voilà, ça change le regard qu'on porte sur les choses. C'est vraiment... Il y a de tout. Alors, elle parle donc des fruits, des arbres, même des haïkus qui sont baignés de cette saisonnalité. Et c'est vraiment un petit texte que je recommande à tout le monde et qui est... Voilà. D'une délicatesse et d'une poésie très, très forte.
Ça a l'air très beau, effectivement. Merci Christophe Daniel, vous nous rappelez le titre et l'auteur parce que...
Alors le titre c'est Nagori, l'auteur Ryoko Sekiguchi. Je voudrais juste préciser qu'elle est japonaise et qu'elle écrit en français.
Ah d'accord, mais je voudrais le sous-titre aussi.
Alors le sous-titre qui est magnifique, c'est La nostalgie de la saison qui vient de nous quitter.
Parfait, et Thibaut Raden ?
C'est Une sœur de Bastien Vivès.
Chez Casterman. Merci beaucoup à tous les deux. On retrouve d'ailleurs ces livres dans vos librairies respectives. À Vaucresson, librairie L'Écriture. À Paris, librairie La 25e Heure. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci Nicolas.
Merci.
Dans un instant, encore des livres. On retrouve Ce grand enfant de Victor Dolande. À tout de suite.
Il était une fois.
Et il est l'heure de retrouver le Conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et encore une fois, vous avez réussi à coller au monstre sacré du jour, Mark Twain.
Il y a des livres pour enfants.
Ben bien sûr. Là, c'était plus facile
c'était
que
plus
d'habitude.
Facile.
Vous nous parlez de Tom Sawyer, détective.
Oui, dans ses aventures, Tom Sawyer et Huckleberry Finn se connaissent déjà. Tom et Huck sont appelés en Arkansas au secours de leur oncle, le pasteur Silas, persécuté par son voisin et son frère, Jupiter. Lors de leur descente du Mississippi, en bateau à aube, ils croisent un étrange passager qui n'est autre que le jumeau de Jupiter, lui-même poursuivi par deux complices auxquels il a dérobé une paire de diamants. Commence alors une double enquête pour nos deux comparses, retrouver les diamants et élucider le meurtre de Jupiter, commis la nuit même de leur arrivée chez l'oncle Silas. Le temps presse car le malheureux pasteur s'est accusé du meurtre et il va bientôt devoir comparaître devant la justice.
C'est une sorte de suite de suite, c'est moins connu mais il faut le lire.
Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le premier de la série, Les Aventures de Tom Sawyer, rédigé en 1876, mais Mark Twain maîtrise encore mieux ces deux personnages dans celui-ci, Tom et Huck. Meurtre et course en forêt ne les effraient pas, ils découvrent pourquoi les fidèles du pasteur Silla, leur oncle, se détournent de leur église. Du suspense, de l'humour et surtout toute l'espièglerie de ces deux héros.
À partir de quel âge ?
À partir de 8-9 ans, sans aucun problème. Christelle Espier, l'illustratrice, s'est appropriée à merveille cette histoire et vous aurez le plaisir surtout de découvrir ses aventures en grand format. C'est dans cette collection que j'aime beaucoup, la collection géniale de Sarbacane, les grands classiques illustrés. Alors ça prend de la place, mais ce sont vraiment des très beaux livres. Des dessins qui ressemblent plus à des tableaux qu'à des dessins prétextes. Bref, un très très bel album sur deux figures, deux immenses figures de la littérature jeunesse.
Tom Sawyer, détective de Mark Twain, illustré par Christelle Espier, donc aux éditions Sarbacane. Merci Victor.
Merci à vous Nicolas.
Europe 1.
C'est la fin de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide. Merci à Boris Paczynski derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine. On rentre à la maison. Nous parlerons de Victor Hugo. À la semaine prochaine donc avec Jean Valjean, Cosette, Javert, etc. Salut.